Si vous connaissez un tout petit peu Saint Jean de la Croix, si vous êtes plus à l'aise de vous mettre debout ou à genoux pour prier, vous pouvez le faire ou rester assis. Vive la liberté.
Vive flamme d'amour. Vive flamme, Esprit Saint, embrase-nous. Toi le don du Père, toi la source des eaux vives, toi qui répands la grâce, viens en nos cœurs. Vive flamme d'amour. Vive flamme, Esprit Saint, embrase-nous. Toi, Père des pauvres, prends pitié de nos faiblesses. Toi qui donnes la force, viens en nos cœurs. Ô vive flamme d'amour. Ô vive flamme, Esprit Saint, embrase-nous. Esprit de sagesse, toi l'Esprit de vérité, toi qui nous illumine, viens en nos cœurs. Ô vive flamme d'amour. Ô vive flamme, Esprit Saint, embrase-nous.
Viens, Esprit Saint, dans nos cœurs et nos intelligences, pour que nous puissions pratiquer l'oraison avec amour et dans la joie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, il me semble qu'il y a deux conditions importantes pour bien aborder cette école de l'oraison. C'est que vous soyez joyeux et détendu. Pardon de vous dire ça, mais parce qu'il y a des gens qui abordent la question de l'oraison avec tension. Ils sont tendus intérieurement. Ils sont là, je vais tenir pendant 30 minutes. C'est épouvantable, mais je vais tenir 30 minutes. Bon. C'est pas un très bon début. Ça ne veut pas dire pour autant que il n'y aura pas des moments difficiles, il y a les sécheresses et les nuits, on en reparlera, mais voilà. Commencez par, voilà. D'abord, soyez joyeux parce que ça va vous rapprocher de Dieu tout ça, vous voyez. L'oraison, la soirée de ce soir, va vous rapprocher de Dieu. Et ça, c'est quand même très joyeux, n'est-ce pas? C'est très joyeux. Soyez dans la joie et détendez-vous. Après, je me suis demandé, si vous voulez, page 10, j'ai mis quelques textes, et puis page 11, les sœurs ont mis de quoi prendre des notes, parce qu'elles vont apprendre tout sur l'oraison ce soir. Bon, bref. Alors donc, page 10. Moi, je me suis demandé d'abord, qui vous étiez? Parce que il y en a parmi vous qui peut-être veulent découvrir purement, simplement l'oraison. Ils ont entendu ce mot-là et veulent savoir ce que c'est. Il y en a peut-être d'autres parmi vous qui se sont butés à l'infidélité à l'oraison, n'est-ce pas? Vous avez essayé, puis ça vous avez échoué. Ou, voilà. Puis il y en a peut-être d'autres encore qui ont pratiqué l'oraison et qui sont dans des passages difficiles et qui voudraient peut-être de l'éclairage. Bon, ce qui est bien, c'est que chaque soir, vous aurez deux intervenants. Vous aurez l'intervenant visible, celui qui va parler, et puis l'intervenant invisible qui est le Saint-Esprit, voilà, que nous avons invoqué dans un instant. Et c'est lui qui va faire la synthèse, n'est-ce pas, entre le peu de choses qu'on arrive à dire pour éclairer peut-être les uns et les autres consciemment, et puis ceux qui ont besoin d'être éclairés sur d'autres points. En tous les cas, je note que dans la Sainte Écriture, il y a la mention de la soif de Dieu. Et le psalmiste, avec beaucoup de finesse psychologique, fait remarquer, il suffit de regarder le psautier du psaume 1 au psaume 150, il fait remarquer que la plupart du temps, il constate en lui qu'il y a une soif de Dieu. Il dit par exemple, « Mon âme a soif de Dieu. Mon cœur et ma chair sont un cri vers le Dieu vivant. » Donc il constate quelque chose en lui. Un peu comme quand on s'aperçoit d'un truc en soi. Vous voyez ? Alors qu'il n'y a, à ma connaissance, que deux versets de psaumes dans tout le psautier, qui en contient un certain nombre, qui disent explicitement « Je t'aime à Dieu ». C'est pas beaucoup, hein ? Quand le « je » conscient dit « Je t'aime », psaume 17, « Je t'aime Seigneur, ma force », et psaume 114, « J'aime le Seigneur ». C'est-à-dire que non seulement je sens quelque chose en moi qui est attiré par Dieu, mais en plus, je suis attiré par Dieu, je l'aime. Vous voyez, c'est pas tout à fait la même chose. C'est pas la même chose que de dire j'aime quelque chose et de constater que quelque chose en nous l'aime. Vous voyez, donc ça veut dire que quand nous faisons oraison, lorsque nous prions, que ce soit facile ou non, que nous ayons des distractions ou non, que nous soyons dedans ou dehors, nous faisons honneur à notre âme et à son désir profond. Donc en fait, ce soir, vous allez faire honneur à la soif de votre âme. Vous voyez ? Que vous ayez ou non envie de faire oraison, demain, eh bien, votre âme, elle en aura envie. Que vous ayez envie ou non de revenir la semaine prochaine, ce sera un autre intervenant, je vous rassure. Hein, ça va changer, tout ça, vous ne serez pas obligé d'avoir qu'un seul style. Merci mon Dieu. Votre âme aime l'oraison. Vous avez quelque chose en vous qui aime ça. Parce que sa seule nourriture, vraiment apaisante, c'est Dieu. Donc quand vous priez, à chaque fois que vous priez, vous faites honneur à la soif profonde de votre âme. Que ce soit conscient en nous ou non, que vous ayez envie vous-même psychologiquement d'y aller. Alors je vous donne une première petite citation, qui n'est pas la première sur la liste de la page 10, mais c'est Thérèse de l'Enfant Jésus qui dit « Pour moi, la prière, c'est un élan du cœur. » C'est un simple regard jeté vers le ciel, c'est un cri de reconnaissance et d'amour au sein de l'épreuve comme au sein de la joie. Et je retiens, bon, vous pourrez relire cette phrase qui est merveilleuse, elle est citée par le catéchisme de l'Église catholique, 2558, mais j'insiste sur un point précis, c'est l'élan du cœur. En fait, Thérèse de l'Enfant Jésus a deux caractéristiques qui nous intéressent ce soir. La première, c'est qu'elle est carmélite, c'est-à-dire que quand elle parle du cœur, en principe, elle s'est habituée, puis en réalité, elle s'est habituée à avoir le fond, c'est-à-dire son âme, le fond de sa personne en relation avec Dieu, dans l'oraison. Donc ça, c'est le cœur, conformément à ce que explique très joliment, et dès le début, le pape François, dans l'encyclique sur le Sacré-Cœur. Qui a lu l'encyclique sur le Sacré-Cœur du pape François? Bravo, 1, 2, 3, 4, 5. C'est pas la majorité, mais bon. En tous les cas, au tout début, ce qui est bien, c'est que vous n'avez pas besoin de lire toute l'encyclique. Dès le début, il parle de ce que c'est que cardia, le cœur. Et donc, pour moi, la prière, c'est un élan du cœur, c'est-à-dire qu'elle a pris l'habitude de rencontrer Dieu dans son cœur profond, voilà l'exercice de l'oraison, avec la simplicité qu'on lui connaît, un simple regard jeté vers le ciel, un cri de reconnaissance et d'amour. Mais Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus a une deuxième caractéristique, c'est qu'elle est française, comme vous et moi. Et un Français, quand il dit le cœur, il y a quelque chose de... Vous voyez ce que je veux dire ? On cherche la profondeur. Les Français cherchent la profondeur. Il y a plein de peuples dans lesquels ce n'est pas du tout le cas, enfin beaucoup moins le cas que nous. Les Français sont connus pour être romantiques, chaleureux, parlant avec le cœur, tout ça. Vous voyez ? Et donc, c'est intéressant parce qu'il y a les deux couches de l'âme. Il y a la couche profonde, qui est le cœur profond de la personne, qui n'est vraiment apaisé que par Dieu et à qui vous faites honneur quand vous priez. Et puis aussi, l'élan du cœur à la française, où on a l'affection sensible, le sentiment religieux qui s'ajoute à l'exercice spirituel de prier. Bon, je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, mais... En tous les cas, il y a en vous un désir de Dieu auquel vous faites honneur quand vous priez. Et donc, parce que Sainte Thérèse d'Avila, une autre Thérèse, a déclaré ceci, « J'ai passé près de 20 ans sur cette mer orageuse, me relevant, mais mal, puisque je retombais. Je puis dire que c'est une des manières les plus pénibles que l'on puisse imaginer, car je ne jouissais pas de Dieu et le monde ne me contentait point. » Et ça, ça veut dire que Thérèse d'Avila, la grande Thérèse d'Avila, a galéré pour comprendre les chemins de l'oraison. Et si elle est si experte et si importante à lire et à découvrir, c'est parce qu'elle sait toutes les difficultés que ça peut représenter d'être vraiment, profondément, une personne qui prie. Voilà. Elle le sait. Et donc, je vous invite, pendant cette école de l'oraison, à faire confiance à Dieu et à faire confiance à vous-même aussi. Parce qu'il est possible que finalement, vous ne soyez pas si nul que ça dans la prière. Contrairement à ce que à beaucoup de confidences que j'ai de gens qui me disent « j'y arrive pas, je suis mauvais ». Bon, en fait, la seule chose que vous pouvez mesurer, c'est la fidélité. On va parler du rythme. On m'a demandé de vous parler de mon expérience. Je vous en parlais rapidement. Mais en tous les cas, ce que vous pouvez mesurer, c'est si oui ou non, ce soir, vous aurez fait oraison. Oui, de 21h15 à 21h45. Ça, c'est mesurable. La qualité de votre prière, pour le coup, ça, c'est pas mesurable. N'évaluez pas votre prière. Faites confiance à Dieu. Il sait que vous êtes pauvre, que vous êtes pécheur, inconstant. On m'a demandé de parler de mon expérience. Pauvre, pécheur, inconstant. Il le sait. Et donc, il vous aime quand même. Voilà. Donc, il ne faut pas évaluer la qualité de sa prière, mais plutôt faire confiance à Dieu, qui m'aime, et à moi-même, parce que si ça se trouve, quand je prie, ce n'est pas si mauvais, surtout si je prie du cœur et avec cœur, du fond de mon cœur et avec un grand cœur. Ne jugez pas votre prière, faites confiance à Dieu. En faisant une école d'oraison, j'imagine que vous entrez dans une espèce de logique de fidélité, une espèce de logique de recherche sérieuse et profonde de Dieu, peut-être même quelque chose qui ressemblerait à ce que vivent nos sœurs carmélites, mais dans le monde, enfin, je ne sais pas, ce sera à vous de me le dire, mais enfin, ou de le dire à Dieu surtout, mais en tout cas, vous faites une belle démarche de vous tourner vers Dieu Dieu n'en attendait pas autant pour vous apporter beaucoup de grâce. Faites confiance à Dieu. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus a écrit aussi, c'est la confiance et rien que la confiance qui doit nous conduire à l'amour. Voilà. Alors, je ne peux pas ne pas parler de l'oraison, de la définition de l'oraison de Sainte Thérèse de Jésus, donc Sainte Thérèse d'Avila, en insistant sur un point, et vous voyez peut-être que page 10, et gentiment les sœurs ont respecté le petit truc que j'ai mis en gras et souligné une expression espagnole qui est traduite d'une manière un peu particulière en français. Je vais lire le texte français et puis je vais revenir sur plusieurs points de cette définition pour que nous rentrions dans le fond, le cœur de ce que c'est que l'oraison. L'oraison mentale n'est à mon avis qu'un commerce intime d'amitié où l'on s'entretient souvent seul à seul avec ce Dieu dont on se sait aimé. Et alors, c'est pas pour faire pédant, hein, mais je vais le lire en espagnol, parce qu'il y a plusieurs choses qui sont utiles dans l'espagnol. No es otra cosa oración mental, a mi parecer, sino tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama. Commençons par la fin. Nous savons que Dieu nous aime. En fait, la foi est un savoir. L'oraison est un exercice de foi. Et la foi est un savoir. Nous savons que Dieu nous aime. Ça veut dire qu'on ne peut pas forcément toujours sentir que Dieu nous aime. Elle n'a pas dit « con quien sentimos nos ama ». Elle n'a pas dit dont nous sentons qu'il nous aime, mais que nous savons qu'il nous aime. Donc nous avons un savoir, et quand nous nous mettons en présence de Dieu, nous savons avec notre intelligence que Dieu nous aime. Et comme il nous aime, eh bien nous le prions, la oración, l'oraison, mais elle précise l'oraison mentale. Hein, il y a deux sortes d'oraisons, les oraisons vocales, où l'on dit quelque chose. D'ailleurs, ce n'est pas interdit, quand on est dans l'exercice de l'oraison, de parler un peu, n'est-ce pas? Intérieurement, on peut très bien parler un petit peu, et puis surtout se taire. Mais l'oraison mentale n'est pas une oraison vocale, mais peut y en avoir un peu quand même de temps en temps. Je vous parlerai de la parabole du coiffeur dans un instant à ce sujet, parce que je m'y connais vachement. Donc, l'oraison mentale est un moment que nous accordons à Dieu et qui est un moment où nous savons qu'il est là, où nous savons qu'il nous aime, où nous savons un certain nombre de choses. Sabemos nos ama. Alors, tratar de amistad, donc ça veut dire un échange intime d'amitié, un commerce intime d'amitié. Bon, ça veut dire que je l'aime et qu'il m'aime. Voilà pourquoi le bienheureux père Marie-Eugène disait « La prière est une conversation, pourrions-nous dire simplement, c'est un contact avec Dieu, un échange affectueux avec Dieu. » Voilà. Ça, c'est le petit commentaire que le père Marie-Eugène fait de « tratar de amistad ». J'ai mis un tout petit mot sur l'amitié quand même. L'amitié, il me semble que ce serait plus juste de dire que c'est l'amitié du jeudi saint, que l'amitié, disons, à laquelle on est habitué dans l'expérience commune. Vous savez que Jésus, la veille de sa mort, a dit « Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ignore ce que veut faire son maître. Je vous appelle mes amis, car ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. » Donc c'est l'amitié au sens fort du terme. Donc l'amitié dont il est question, je pense que c'est l'amitié du jeudi saint. C'est l'amitié de l'entrée dans le mystère de la passion. C'est une amitié qui fait que je suis uni à mon Seigneur complètement. Je pense à l'exemple de Saint Charles de Foucault, Je ne sais pas si vous connaissez ce détail de sa mort qui est assez important. Lorsque Charles Foucault est mort, donc il a été tenu en joue à genoux par un gamin de 15-16 ans, peut-être, qui était là pour l'empêcher de bouger pendant qu'on était en train de piller le fort où il était. Et puis, au moment où le pillage a eu lieu, les pillards ont vu un tas de trucs, et dans ce qu'ils ont vu, il y avait un cercle de fer dans lequel il y avait un morceau de pain. Enfin, il y avait le Saint-Sacrement. Mais les musulmans qui étaient là, qui ont vu un cercle de fer avec du pain à l'intérieur, ça n'a aucune valeur ce truc-là. Et ils l'ont jeté par terre, à quelques mètres du Père Charles. Et d'autres choses qu'ils ont jetées. Et puis, des méharis sont arrivés, nuages de poussière, affolement parmi les pillards. Le gamin s'affole, le coup part, le père de Foucault tombe, et il tombe à quelques mètres du Saint-Sacrement. Donc ça veut dire que l'oraison, la prière d'adoration du père de Foucault, n'était pas simplement une espèce d'union métaphysique et sentimentale avec Jésus, dans un exercice qu'on appellerait l'oraison, mais c'est une union forte d'amitié avec Jésus, au point que quand Jésus tombe, Charles tombe aussi. Vous voyez ? Je suis uni à mon Seigneur dans le moment, j'allais dire, de paix et de réconfort que je peux trouver dans l'oraison, mais c'est surtout pour m'unir à lui. Je suis censé m'unir à Jésus, et non pas, j'allais dire, me faire plaisir ou m'apaiser ou trouver de la paix dans ma vie trépidante d'homme du 21e siècle. Même si au début, si ça fait ça, tant mieux. Mais un moment ou un autre, il va falloir qu'il y ait de l'amitié. Tratar de amistad. Voilà. Donc c'est l'amitié au sens fort, à mon avis, du Jeudi Saint. Et puis, j'insiste sur estando muchas veces tratando a solas. En fait, muchas veces, ça veut dire de nombreuses fois. Et on l'a traduit en français par souvent. C'est pas faux, hein, souvent. Mais muchas veces, ça veut dire quoi? Dans une vie de carmélite, il y a une heure d'oraison le matin, une heure le soir. Bon, une carmélite qui se dirait « c'est bon, j'ai fait mes deux heures, je suis tranquille », bon, elle se marre, là. Vous ne les voyez pas, mais elle se marre. Voilà. Bon, ça n'a aucun sens, vous voyez bien. On ne se débarrasse pas de Dieu, enfin, je ne sais pas comment dire ça. L'oraison n'est pas faite pour cocher une case où c'est bon, je lui ai donné une heure, c'est bon. Vous voyez, enfin, pas personne ne fait ça, peut-être bien, mais quoique, il se pourrait qu'on se dise, j'ai coché la case. Muchas veces, ça veut dire des petites touches de temps en temps, voyez. Il faut bien qu'il y ait un moment un peu plus long, et je vais revenir au coiffeur dans un instant, quel teasing. Il faut bien qu'il y ait des moments longs où Dieu ait le temps de nous transformer. Mais la vie d'oraison, c'est une vie un peu continuelle d'amour et de touches d'amour avec Dieu, voyez. De façon à ce que les moments longs d'oraison soient un moment plus intime et plus profond, mais qui est toujours, de temps en temps, una vez más, hein, une fois de plus. Et vous pouvez, moi je le fais de temps en temps dans la journée, de temps en temps je me tourne vers Dieu, puis je lui dis, en espagnol, ça m'amuse, una vez más. Voilà, une petite fois en plus. Allez, cadeau. Et ça, on a beaucoup ça dans l'exemple de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, c'est avec elle que j'ai appris ça. Muchas veces, de nombreuses fois. Pour que la vie d'oraison soit en fait une vie d'amour régulière avec Dieu, nourrie quand même par de longs moments, des moments un peu plus longs, tout le problème étant comment on va faire. Et là, je fais un dernier petit commentaire sur la définition de Sainte Thérèse d'Avila, et puis ensuite, vous donner un petit témoignage personnel. Elle dit « tratando a solas », seul. Alors il y a un paradoxe dans ce mot, c'est que solas, c'est au pluriel. Hein? En fait, quand les carmélites prient, elles sont ensemble, seules. Enfin, vous voyez. Donc ça veut dire qu'il y a un échange intime entre chaque personne qui prie. C'est ce qu'on va faire dans un quart d'heure, 20 minutes. Un quart d'heure. Mais c'est bon, je crois, d'être à plusieurs. Plusieurs années, il y a eu des groupes de jeunes là, d'Angers, des étudiants, qui se sont réunis pour faire un petit groupe de prière pour s'encourager dans l'oraison. Et bien ça, c'est très bon, ça. Parce qu'ils se donnaient rendez-vous, et le fait d'être au rendez-vous, d'avoir quelqu'un d'autre à côté de soi qui prie, ben, ça aide, bien que ce soit un exercice de seul à seul avec Dieu. Bon, moi je ne suis jamais aussi heureux, je suis curé de paroisse, hein, je ne suis jamais aussi heureux que quand je prie avec mes paroissiens. Je le fais aussi tout seul, hein, bien sûr, mais c'est vraiment très bon, hein, quand je suis dans une église et qu'il y a plusieurs... J'ai fait ça cet après-midi, eh ben, c'est merveilleux, hein, on était devant le Saint-Sacrement, on était plusieurs, et de voir les autres prier, ça m'encourage à prier, de me voir prier, ça les encourage à prier, et ainsi de suite. Vous voyez ? Donc, dans la mesure où vous pouvez, parce que là, vous allez vous voir 4 ou 5 fois, 5, on va se voir, vous allez vous voir 5 fois, mais vous avez le droit de continuer. Voilà. Voilà. Avec votre rythme, je ne sais pas, il y a les heures d'oraison des sœurs ou d'autres. Vous pouvez former un groupe. C'est pas difficile de former un groupe. Hein. On se retrouve à telle heure, tel jour, pouf, on prie. C'est pas compliqué. Donc moi, je vous conseille ça. Par ailleurs, oh là là, il faut que je me dépêche. Vous avez 2 stratégies possibles pour prendre goût à l'oraison. Et je termine avec ça. Vous avez 2 stratégies possibles. La première stratégie qui est chaque jour d'offrir un temps très court et très profond à Dieu, mais chaque jour. Et votre régularité à ce moment-là devient quotidienne. Mais, pour ma part, ce n'est pas ainsi que j'ai découvert l'oraison. Je l'ai découvert autrement, c'est par une fidélité hebdomadaire d'abord, pendant des années. Mais par contre, une vraie heure complète, 59 minutes, 59 secondes et une seconde de plus. Une heure. Et donc, pendant des années, j'ai fait ça une fois par semaine. Et j'ai pris goût à l'oraison. Et je pense qu'une fois qu'on a le goût, on trouve le moyen de le faire après, les autres jours. Mais ils sont si nombreux, ceux qui vous disent de prier 5 minutes par jour, puis après 10 minutes, puis après un quart d'heure, et que ça grossit, que je répète leurs conseils avec joie. C'est pas comme ça que j'ai fait, mais si ça marche, alléluia. Et peut-être que vous trouverez encore d'autres manières de faire. Je termine avec la parabole du coiffeur, parce que c'est quand même important, puis vous l'attendiez depuis le début. Imaginez une femme qui se marie le samedi après-midi. Le samedi matin, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle va chez le coiffeur. Ou le coiffeur vient chez elle, peut-être plutôt. Je ne sais pas. Bon, je manque d'expérience. Et en tous les cas, il faut bien qu'elle s'assoie pour que le coiffeur puisse travailler sa chevelure. Oui ou non ? Si elle s'agite, si elle se lève tout le temps de son siège, le coiffeur ne peut plus travailler. Et en fait, Dieu, vous allez lui laisser le temps pendant une demi-heure de vous faire une magnifique chevelure intérieure. Ça, c'est bon, ça. Par contre, si vous avez déjà été chez le coiffeur, moi, ça fait un quart de siècle que j'y suis plus allé, donc je ne sais plus comment c'est, mais il me semble qu'on peut parler quand même au coiffeur de temps en temps, non ? Hein, pendant qu'il est en train de... il vous demande des nouvelles. Alors, votre chat, comment ça va ? Tout ça, oui. Et donc, vous avez le droit de donner des nouvelles de votre chat à Dieu, oui, le coiffeur de votre âme. De temps en temps, on a le droit de parler. Il ne faut pas non plus être une statue. Je connais une petite fille, et là vraiment je m'arrête. Je connais une petite fille qui a dit un jour à sa mère, « Maman, je ne veux pas être sainte. » Alors, sa maman était un petit peu embêtée parce qu'elle avait essayé d'élever sa fille dans la foi catholique. Et en plus, elle est à Notre-Dame de Vie, engagée et tout ça. « Maman, je ne veux pas être sainte. Ben, »« Pourquoi tu ne veux pas être sainte ?»« Eh bien, parce que je n'ai pas envie de terminer en statut. » Mais elle avait raison, cette petite fille, hein, qui aujourd'hui est mère de famille. Vous n'êtes pas des statues. Vous avez le droit de respirer, de racler votre gorge, de dire des choses à Jésus de temps en temps. Voilà. Question-réponse. 10 minutes.
Alors, y a-t-il des questions, des remarques, des précisions que vous souhaitez avoir ?